RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir Roselyne.
Nous recevons ce soir Laurence Rossignol, ministre de la Famille, de l'Enfance, des Droits des Femmes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, lors des primaires de la gauche, vous souteniez Manuel Valls. Aujourd'hui, vous vous rangez du côté du gagnant, Benoît Hamon. Cela s'appelle le Rassemblement. Mais vous nous expliquerez comment soutenir un ex-frondeur qui, dans le fond, a pourri la vie de votre gouvernement pendant 3 ans. On promettait une hémorragie chez Emmanuel Macron, qui n'est pas encore venu. Et en attendant, c'est à droite que souffle la tempête sur la tête de François Fillon, un peu décoiffé, mais dit-il toujours debout. Son opération survie hier est-elle réussie? Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, le canard enchaîné sort de nouvelles révélations. On va en parler dans quelques instants. Mais tout de suite, une question, puisque vous êtes la ministre des femmes. Ce matin, la philosophe Elisabeth Badinter, féministe, acharnée, avait dans le fond de la compassion pour Pénélope Fillon. On l'écoute.
La personnalité de Madame Fillon, la femme qui apparaît à la lumière et qui ne voulait pas à la lumière, suscite chez moi quelques compassions. C'est un homme politique, oui. Il prend ses responsabilités, donc je n'ai pas le même sentiment, si vous voulez, à son égard à lui.
Voilà, alors, Madame Fillon, victime des ambitions de son mari, est-ce que vous en faites, vous, la même lecture qu'Elisabeth Badinter?
Pas tout à fait, mais je crois que j'identifie ce que veut dire Elisabeth Badinter. J'ai été frappée dans le reportage envoyé spécial la semaine dernière, dans cette interview de Madame Fillon, de ce qu'il y avait, en fin de compte, qui relevait de la condition universelle des femmes. Quelque part, une femme très émouvante au moment où elle a dit.
Sur les images, en tout cas.
Non, au moment où elle a dit... Mais je le dis à mes enfants, j'ai fait des études
même. Oui, je suis pas une idiote.
Il y a là quelque chose d'une femme qui toute sa vie a été la femme de quelqu'un, la maman de nombreux enfants, dont qui a renoncé incontestablement à des choses. D'ailleurs, elle le dit assez clairement. J'aurais retravaillé, indépendamment de ce que signifie le mot travailler dans l'affaire actuelle. J'aurais retravaillé. Et on voit chez Pénélope Fillon un personnage. On ne sait pas trop si elle est sortie d'un roman de Mauriac, d'un film de Chabrol. D'un roman anglais, mais on voit une femme qui donne une impression de solitude. Moi, elle m'a donné l'impression de solitude.
De propre victime d'elle-même, dans le fond aussi, parce que c'est une décision. Est-ce qu'on est victime parce qu'on se sacrifie sur l'autel de l'ambition de son mari? Est-ce que c'est pas aujourd'hui, de nos jours, vous voulez dire, il n'y a pas de contrainte, hein, on devrait pouvoir choisir.
Il y a dans cette discussion quelque chose d'assez ténu. Est-ce qu'il y a à toutes les femmes quelque chose de commun dans leurs conditions et qui tient à la domination masculine, et ou est-ce que le fait qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et d'autres beaucoup moins fait qu'elles n'ont rien en commun? Je pense pour ma part qu'il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que dans tous les milieux, il y a des femmes victimes de violences, dans tous les milieux, il y a des femmes victimes de viols conjugales, dans tous les milieux, il y a des femmes reléguées, méprisées. Et il y a j'ai identifié, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs j'ai pas été la seule, chez Pénélope Fillon la semaine dernière, indépendamment de ce qu'il aurait reproché, indépendamment des sommes, et elle fait pas pitié sur le plan matériel, bien entendu,
mais il y a
mais il y a quelque chose chez cette femme qui évoque une espèce de solitude et de renoncement. Après la manière dont les femmes ont ou non, à un moment donné, la possibilité d'envoyer promener les traditions, par ailleurs, je ne fais pas partie du comité de soutien.
Non, mais la compassion est une chose, mais comment vous expliquez qu'elle ne se soit pas exprimée dernières semaines, alors que c'est elle qui est mise en cause, c'est son mari qui parle pour elle? Alors je veux bien que ce soit lui de la politique,
mais je ne peux pas expliquer ça.
C'est surprenant.
La stratégie de communication de François Fillon depuis le début de cette affaire, où il a commencé d'abord par accuser le canard enchaîné de sexisme et de misogynie, parce que le canard enchaîné avait donné à voir les salaires de sa femme, était déjà tout à fait baroque. Et puis toute la stratégie de communication qui consiste à ne jamais dire la vérité, à changer de version le lendemain, à dire qu'on s'est trompé.
Voilà,
tout ça une stratégie de communication très étonnante, et la raison pour laquelle Madame Fillon ne parle pas, je ne sais pas.
Les épouses d'hommes politiques n'ont pas le droit à la parole, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est une pratique répandue ou elle s'applique seulement au cas de Madame Fillon?
Fort heureusement, toutes les épouses d'hommes politiques, ou même les époux de femmes politiques.
C'est de fait par leur rôle, c'est qu'elles n'existent pas par essence dans la politique.
Non, mais de toute façon, c'est exceptionnel que la compagne ou l'époux d'un homme politique se trouve comme ça, mis en lumière et mis en cause sur la nature de son travail, la réalité de son travail. C'est très exceptionnel. C'est un sujet que nous regardons tous, je vous disais tout à l'heure, un peu comme un roman. C'est une affaire presque romanesque, mais c'est par ailleurs, je tiens à le dire, comme une affaire avant tout extrêmement préjudiciable pour la démocratie et pour l'ensemble de la représentation parlementaire.
Est-ce que vous souhaiteriez, vous, on a posé la question à plusieurs femmes politiques aujourd'hui, entendre la version de Pénélope Fillon? Est-ce que finalement tout le monde n'aurait pas, par ailleurs, à y gagner?
Mais Pénélope Fillon a dû donner sa version au juge.
Oui, non, mais elle a été interrogée. Est-ce que vous, en tant que femme politique, vous souhaiteriez entendre sa version?
Je ne sais pas si je souhaite entendre sa version. Tout ça est une affaire. Tout ça n'est pas une affaire Pénélope Fillon. Tout ça est une affaire François Fillon. Et j'ai trouvé que lorsqu'il a fait ses premières interventions télévisées, en disant l'honneur de ma femme, j'aime ma femme, tout ça était assez incongru parce que le sujet c'était pas sa femme, le sujet c'était lui en tant que personnalité politique de premier plan, candidat à l'élection présidentielle, homme soi-disant intègre, honnête, parangon de vertu et de morale, et en particulier d'économie pour tout le pays et pour les fonctionnaires. Et c'est lui qui est en cause.
Oui,
c'est pas elle. Voilà.
Mais c'est étrange, une féministe comme vous, de dire qu'on n'a pas à cœur d'entendre un jour la version de Pénélope Fillon. De sa propre bouche, voilà. François Fillon hier nous a dit, elle n'a pas travaillé à l'insu de son plein gré. On aimerait bien qu'elle nous dise, oui.
Oui, mais j'ai travaillé
comme une folle. On en trouvera bientôt toutes les preuves matérielles.
Son silence est peut-être éloquent, ou elle se réserve. Elle n'est pas une personnalité publique. Moi, je veux pas me retrouver. C'est étrange cette conversation qu'on a là, parce que
on va passer à autre chose.
Mais ceci dit, on peut comprendre que comme elle n'est pas une personnalité publique, elle se réserve pour les juges, pour l'enquête. Après, c'est leur affaire.
Vous l'avez déjà dit. Voilà. L'épouse de François Fillon, donc Pénélope, soupçonnée d'emploi fictif, donc comme assistante parlementaire. Hein. Voilà, ça a été donc le début de l'affaire. Et là, le canard enchaîné en remet une couche ce soir en disant que, eh bien, elle aurait touché 45 000 euros d'indemnité de licenciement, donc payée par l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qu'affirme le canard ce soir pour une période entre 98 et 2002. Est-ce que là encore, c'est une, vous connaissez vous le fonctionnement parfaitement du Parlement. Est-ce que là, on est encore dans une affaire de plus, une affaire légale? À la limite, si on travaille et qu'on travaille plus, est-ce normal d'avoir des indemnités à un moment ou à un autre? Et ce chiffre paraît une fois de plus énorme.
Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas lu le canard enchaîné. Il n'est pas sorti. J'ai vu comme vous la dépêche ou la une qui circule sur les réseaux sociaux. Et on n'est pas tous devenus des enquêteurs de la brigade financière. Voilà, la justice travaille. La justice dira sans ces sommes. Ce qu'on observe et qui est très préjudiciable dans cette affaire, c'est que il y a toujours des nouvelles informations qui viennent jeter une ombre de suspicion sur les éléments que donne François Fillon lui-même depuis le début. Tout ça manque quand même considérablement de stabilité dans l'information qui est livrée.
Comment vous l'avez vu hier lors de sa conférence de presse, François Fillon? Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que vous êtes dit, ça y est, là, les députés et les cadres du parti ne pourront pas le débrancher, donc c'est une conférence de presse à visée vraiment interne, il n'y a pas de plan B. Comment vous avez trouvé son angle d'attaque dans le fond? Est-ce que ça a été l'opération survie réussie?
J'ai trouvé qu'il parlait à son camp, qu'il parlait à ses cadres, qu'il parlait au Parlement de la droite qui sont extrêmement troublés pour beaucoup d'entre eux et que surtout ils mettaient un terme à toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le fameux plan B. Et bon, il tient, mais vous savez, en politique c'est assez fréquent ce que j'appelle le même pas mal. C'est-à-dire que voilà, il peut arriver, le ciel peut vous tomber sur la tête, et les hommes politiques sont là, droit dans leurs bottes, même pas mal, même pas mal. Bon, il a fait, c'est ce qu'il a fait hier, ça tiendra ce que ça tiendra.
Oui, voilà. Et juste avant que Véronique reprenne la question, mais est-ce que vous partagez l'avis de François Fillon sur le lynchage, l'assassinat médiatique qui, selon lui, pose un problème démocratique ? Vous avez connu l'affaire Cahuzac. Est-ce que cet acharnement dont parle François Fillon, est-ce que les politiques peuvent en être victimes parfois de manière outrancière ? Vous vous dites, au contraire, c'est la défense de la démocratie, c'est comme ça qu'on fonctionne, il faut l'assumer et il faut l'accepter.
De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc voilà, c'est le réel et ce n'est pas nouveau non plus. On peut mettre ça sur le compte des chaînes d'infos. C'est pas nouveau. L'affaire des diamants Bocassa, Giscard d'Estaing, oui, a été sortie par Canard Enchaîné dans les
tout
années.
Ça a été vrai.
Tout cela a été vrai par ailleurs. C'est le rôle de la presse d'investigation que d'extraire ce que certains veulent cacher. Et quand on est une personnalité politique, il vaut mieux avoir très peu de choses à cacher dès lors que ça concerne la vie publique. En revanche, il y a des choses que je ne veux pas savoir, c'est ce qui concerne la vie privée ou la sexualité des uns et des autres. Et soyons quand même en France encore
vous fiers. Faites référence à quoi, là?
Soyons encore... qu'est-ce que la...
Emmanuel Macron, éventuellement, sur les accusations que, voilà, mais, les rumeurs.
Je n'allusion rien. Je dis simplement que le rôle de la presse d'investigation, c'est d'informer sur ce qui relève du fonctionnement de la vie publique, de ce qui se passe dans l'exercice du mandat. En l'espèce, c'est quand même dans l'exercice de son mandat de parlementaire qui est en cause. Et puis après, soyons heureux qu'en France, et fiers de nous, que tout ce qui relève de la vie privée, de l'intimité, ne soit pas exposé dans les journaux. Je ne veux pas le savoir, et les Français ne voudraient pas le savoir non plus.
Justement, oui. Sur la défense de François Fillon, on l'a vu hier à sa conférence de presse, il a fait son mea culpa devant les Français. Il a invoqué, a-t-il dit, des pratiques anciennes, celles qui consistent à embaucher des membres de sa famille, mais que les Français, a-t-il dit, n'acceptent plus. On l'écoute.
Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Comme beaucoup d'autres parlementaires, j'ai agi selon un usage.
Voilà, mettre en cause les pratiques anciennes, l'usage, c'est la défense de base de tout député qui ait pris la main dans le pot de cornichon. Est-ce que c'est pas un peu faible, là, pour le peu? Ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de revenir sur tout ça un jour?
En fait, surtout ce qui a donné lieu à des informations, ce qui a donné lieu aux premiers articles qu'il a enchaînés, c'est pas tant le fait qu'il ait travaillé avec son épouse, c'est qu'il y avait un doute sur la réalité du travail effectué par son épouse. Il fait un joli tour de passe-passe en disant, en gros, ce qu'on me reproche est légal parce que j'ai travaillé avec ma femme et c'est pas interdit, c'est vrai. Mais il évite de répondre à la question qui est celle qui a quand même conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire, c'est est-ce que le travail de son épouse et de ses enfants était un travail réellement effectué ou est-ce que c'était des emplois fictifs? Je n'en sais strictement rien, il y a une enquête là-dessus. Et alors, quand cette défense commence à dire, mais ce que j'ai fait, c'est légal, mais en fait, les Français veulent plus, ils ont changé, c'est légal. Je ne sais pas si c'est légal. On le saura pour partie à la fin de l'enquête préliminaire et en fonction de ce qui sera fait après.
Il y a, une enveloppe pour chaque parlementaire. Alors, c'est ça. Après, vous connaissez mieux que nous.
Les enveloppes. Effectivement, je suis parlementaire. J'étais sénatrice avant d'entrer au gouvernement et je le redeviendrai.
On peut engager quelqu'un de sa famille, d'amis, de qui on veut.
Très franchement, la façon dont depuis le début d'ailleurs, que ce soit sur cette affaire d'emploi familial, que ce soit sur l'histoire des chèques que le groupe de droite du Sénat reversait à Noël à ses sénateurs. J'entends en permanence François Fillon et certains de ses amis dire « Oui, mais tout le monde fait ça. » Non, tout le monde ne fait pas ça. Et c'est déjà son affaire déstabilise la démocratie. Déjà, les informations déstabilisent la démocratie et ne font pas de bien collectivement. Mais l'idée qu'ils répandent, selon laquelle tout le monde ferait ça, et ce serait une pratique commune, je m'inscris totalement faux. Je suis parlementaire, je n'ai jamais embauché ma famille. Tout le monde connaît mes collaborateurs. J'en avais trois. Ils étaient connus de leurs collègues, des élus de mon département, des citoyens. Et je n'ai jamais non plus touché le moindre cadeau de Noël, chèque de Noël de la part de qui que ce soit au Sénat. Donc,
Mais pourquoi personne n'a jamais proposé pour que la vie politique soit un peu plus claire? Pourquoi personne ne propose de réformer ce genre de pratique si au moment où elles sortent, elles sont contestées?
C'est-à-dire qu'avant, ce qui a fait sortir la pratique, c'est pas le fait, qu'il a embauché sa conjointe, fait qu'il y a un doute, c'est que puisque personne le savait et qu'il y a un doute sur la réalité de l'emploi. Donc maintenant, bien entendu, tout ça va se finir très probablement par le fait que on va mettre une règle d'étanchéité entre les parlementaires et leurs collaborateurs qui ne pourront pas appartenir à leur famille.
Après, ce qui va être difficile pour les juges, Laurence Rossignol, ce n'est pas prouver qu'elle a travaillé, mais c'est de prouver qu'elle n'a pas travaillé.
Bien sûr, il faut prouver.
Donc, c'est quand même
pénale.
La difficulté, et on sait très bien que la limitation, les limites de l'attaché parlementaire sont très floues aussi.
Pas tant que ça. Très franchement, pas tant que ça. Un collaborateur parlementaire, moi, tous ceux que je connais...
Elle fait mon courrier, elle téléphone...
Ils sont en lien avec les gens peuvent témoigner, les citoyens peuvent témoigner, oui. On est invité quelque part. Moi, mes collaborateurs, ils répondent au téléphone le temps, ils répondaient au courrier, tout le monde les connaissait, ils sont accessibles tout le temps. Ils remplacent le parlementaire, en fait, en circonscription ou au Parlement. Donc, ce sera le travail de la justice que de dire si c'était un emploi réel ou pas. Et probablement qu'à l'issue de tout ça, on avancera encore dans la...
Pour le moment, en tout cas, c'est ce que dit le Canard ce soir, ils n'ont pas trouvé de preuves matérielles du travail effectif de Madame Fillon. Quoi, bon. On suivra l'affaire toujours sur la défense de Fillon, dire à la fois et tous les jours, mais c'est légal, après même avoir évoqué un complot, et mettre en cause la compétence du PNF, du parquet national financier. Ça correspond à quoi?
Mais c'est ce qu'ils font à chaque fois.
C'est classique aussi, là, on est dans du classique.
Rappelons-nous, c'est pas si vieux quand même, Nicolas Sarkozy, quand il sortait de juge d'instruction, et qui mettait en cause leur appartenance syndicale, qu'il essayait de les disqualifier. À chaque fois que les élus de droite se retrouvent confrontés à la justice, leur premier travail, c'est de mettre en cause la justice, mettre en cause un
dégré. Jamais les élus de gauche.
Il n'y a pas de pourri de gauche.
Moi, j'ai le sentiment, quand il nous est arrivé aussi quelques moments difficiles, mais franchement, on était beaucoup plus profil bas.
Alors,
on déprofile pas et on
au moins sur la justice, pas nécessairement sur les journalistes.
Laurence Rossi, Laurence Rossignol, on va passer dans cette deuxième partie à votre camp, le Parti Socialiste. Mais pour en finir, cette affaire, s'il s'en sort, François Fillon, est-ce que vous pensez qu'il peut infléchir sa politique économique et sociale, parce que dans le fond, il aura été fragilisé, ce sera un Fillon qui reviendrait de l'enfer. Est-ce que vous pensez qu'il peut infléchir là-dessus, ou il serait intraitable sur son programme? Quelle incidence politique ça pourrait avoir, cette affaire, sur lui, puisque de toute façon, il l'a dit, il n'y a pas de plan B, donc ils ont tout intérêt à le garder sous respirateur jusqu'à...
Déjà, il gagne du campagne.
Voilà, donc ce sera lui le candidat de toute manière. Donc
probablement ce sera lui le candidat. Je pense que il est maintenant un peu disqualifié, surtout sur le profil qui était sien, comme cet homme avait choisi l'honnêteté contre ses concurrents qui avaient été mis en examen ou condamnés. Lui, il incarnait avec une certaine brutalité d'expression quand même à l'égard de d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, l'honnêteté, la rigueur. Bon, même s'il passe le cap, il restera un doute sur sa rigueur. Voilà. Sur ce qui est son programme, qui est un programme où il disait aux Français, avec moi, vous allez tous vous serrer la ceinture, je vais m'occuper de l'assurance maladie, vous serez déremboursés, les fonctionnaires, 500 000 en moins. Comment quelqu'un qui manifeste un tel goût pour ramasser tout l'argent qui traîne autour de lui et tout ramener dans l'économie familiale.
C'est ce qui fait.
Ce que j'ai observé, légal ou pas légal, ce que j'ai observé, c'est que dès qu'il y a 10 euros qui sont à portée de main dans son enveloppe parlementaire.
Il a cette réputation?
Non, mais j'ai regardé comment se succèdent les contrats de sa conjointe, les contrats de ses enfants. Visiblement, il ne laisse pas perdre 10 euros. Voilà. Et il ramène tout dans l'économie familiale, alors qu'en général, on redistribue pour d'autres. Pour des salariés, à qui on paye des gens.
C'est les socialistes qui distribue pas la droite.
Il s'est disqualifié dans la campagne en deux
mois. Et je pense que c'est d'autant plus difficile par rapport au thème qu'il portait. Et il y a une vraie dissociation entre cet homme qui s'est présenté avant comme étant un père à la rigueur, un père à la morale sur les affaires de politique familiale, sur son, ce qu'il explique aussi, moi c'est dans mon portefeuille, enfin dans mon domaine, à la fois sur l'IVG, sur sa conception de la famille et sur tout ça, le père la morale, le père la rigueur, et on le regarde là en se disant bon, c'est quand même une morale, une rigueur à géométrie variable et très très familialisée.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique, on se retrouve toujours avec Laurence Rossignol après un flash info.
Retour dans Mardi Politique avec notre invitée Laurence Rossignol, donc ministre des Familles et de l'Enfance, et puis des droits des femmes. Donc avec Véronique Rigolet, on a parlé de l'affaire Fillon. Benoît Hamon, donc votre candidat du Parti Socialiste, il a été dans le fond au premier poste de la déloyauté vis-à-vis de François Hollande. Est-ce que ça vous pose aujourd'hui un problème, à vous, de le soutenir aujourd'hui ? Ou pas.
C'est une situation relativement inédite quand même, faut le reconnaître. Enfin, on est dans une présidentielle où il y a tellement de choses inédites,
oui.
Et dans une situation internationale tellement inédite, tellement elle-même particulière, que ben, nous-mêmes, la gauche, nous contribuons à ces situations inédites. Pour autant, il a été désigné dans le cadre d'une primaire, qui est une primaire qui a rassemblé beaucoup d'électeurs, puisqu'en deuxième tour, il y a quand même plus de 2 millions d'électeurs, je crois. Mm-hmm. Beaucoup d'électeurs, sa victoire électorale est nette. Dès lors qu'on a accepté la primaire, ses règles, et ses conclusions, c'est-à-dire la conclusion d'une primaire, c'est qu'on soutient, on s'engage à soutenir le gagnant. Et Benoît Hamon n'était pas disqualifié à participer à la primaire. On n'a jamais dit, seuls ceux qui ont soutenu le gouvernement peuvent participer à la primaire. Peut-être qu'on n'avait pas prévu que c'était ceux qui avaient été les plus opposés au gouvernement qui remporteraient la primaire. Il faut qu'on comprenne, qu'on en tire l'enseignement. Je pense pour ma part qu'on a Manuel Valls que j'ai soutenu et que je ne regrette pas d'avoir soutenu. Je sais pourquoi j'ai soutenu Manuel Valls. A fait une campagne de primaire extrêmement imprégnée et engagée sur la responsabilité d'avoir été Premier ministre et ministre de l'Intérieur pendant ce quinquennat très particulier. Et Benoît Hamon fait une campagne de la primaire où il a parlé à la gauche. Et il a dit aux gens de gauche, voilà, vous avez souffert pendant 5 ans, ça a été un quinquennat difficile. Nous, effectivement, on a eu un quinquennat très marqué par le terrorisme, très marqué par la...
Mais c'est la règle des primaires que de parler à sa famille politique, Madame Rossignol.
Oui, c'est la règle, mais en même temps, la primaire vise à désigner un candidat à la présidentielle qui, après, va devoir parler au pays. Manuel Valls, probablement...
Est-ce que c'est pas le yadu, le problème de la primaire,
il n'est pas plus dans la campagne présidentielle et pas assez dans la primaire?
On verra parce que la primaire débouche sur la candidature à la présidentielle. Et maintenant, Benoît Hamon, effectivement, que je soutiens, qui est notre candidat, n'est pas simplement candidat à être le chef de la gauche, il est candidat à la présidence de la République.
Mais alors, ce qui est quand même compliqué pour vous, hein, ces fameux de gauche irréconciliables qui ont été depuis longtemps théorisés, hein, et bien sûr Manuel Valls a continué de le dire, il y a quand même un océan de différences. Moi j'en vois 3, une différence idéologique sur le travail, tous les deux, l'un croit au travail, l'autre pas, une différence politique sur le bilan du gouvernement, un le défend, l'autre ne veut pas le défendre, et enfin une différence sur la vision. L'un regarde vers Macron et l'un regarde vers Mélenchon. Il y a tout de même, c'est quand même irréconciliable quand on fait ce constat.
Alors, sur les 3 sujets que vous abordez, le premier...
Vous
avez choisi 3.
Pour
le
faire
premier,
la synthèse,
l'un croit au travail, l'autre n'y croit pas. Je pense que ce n'est pas caricatural à ce point-là. Benoît Hamon ne dit pas qu'il ne croit plus au travail. Benoît Hamon observe un certain nombre d'évolutions, les destructions d'emplois à venir liées à la transition numérique. Il part du principe que désormais il y aura probablement pas du travail pour tout le monde dans les mêmes conditions et qu'il faut commencer
un nouveau socialisme, une nouvelle vision du socialisme et de la vie.
C'est une nouvelle vision des évolutions de la société. Oui. Benoît Hamon se situe dans les mutations de la société. Non, je rame pas parce que je rame d'autant moins que moi j'ai confondé dans le Parti socialiste à l'époque où j'étais encore parlementaire un regroupement avec des gens qui aujourd'hui soutiennent Benoît Hamon, d'autres soutenaient Montebourg et encore d'autres soutenaient Manuel Valls qui s'appelait la gauche durable et dont l'objet était l'accompagnement de la transition écologique, démocratique. Et en particulier tout ce qui se passait dans les territoires. Benoît Hamon, il se situe un peu dans cette filiation-là. Bon, donc il ouvre une réflexion qui existe.
Oui, après la réponse, vous la partagez pas cette réflexion.
Non, comment vous allez y participer alors, oui, justement en posant le problème à l'envers.
Deuxième chose sur le bilan du gouvernement. Moi, j'ai écouté ce qu'a dit Benoît Hamon depuis qu'il a été élu. Qui est notre candidat sur la question du bilan au gouvernement. Lui aussi, il est sorti de la primaire. C'est-à-dire que, d'abord, il reprend dans le bilan du gouvernement ce qu'il considère. Il a eu une jolie formule, il a dit « Tout ce que la droite veut détruire, c'est tout ce qu'on garde. » Voilà, d'un certain point de vue, c'est tout ce dont on est fier. Comme la droite s'oppose à nous quasiment sur tout, et s'est opposée à nous sur tout, et n'a quasiment rien voté, à part quelques lois sur la sécurité, d'un certain point de vue, Benoît Hamon, lui aussi, évolue dans son rapport
Ça, c'est bien,
quinquennat.
À vos yeux, alors.
Je pense que lui aussi est sorti
la condition,
du débat de la primaire. C'était la condition. Le Premier ministre lui avait une discussion de ce point de vue assez claire. Et puis Benoît Hamon doit rassembler tous ceux qui ont participé à cette primaire.
Et c'est ce qu'il veut faire cette semaine.
C'est ce qu'il est en train de faire.
Valsis ou Hollandais, on aura la liste.
Je pense qu'il ne faut pas raisonner en tant que Valsis, Hollandais, en sous-catégorie. Ça, je pense que c'est vraiment
la
très vieille politique. Mais simplement
entre la social-démocratie et la vision.
Les 800 000 personnes qui sont venues voter pour Manuel Valls au deuxième tour, qui sont le plus souvent des socialistes légitimistes, qui ont tenu bon pendant les 5 ans, qui n'ont pas toujours été faciles pour les socialistes, et qui, de toute façon, veulent soutenir leur candidat, et il faut qu'ils se retrouvent dans ce que Benoît Hamon va proposer. Et puis,
celle qui le résume, c'est Christiane Taubira, qui elle aussi est sortie du gouvernement il y a quelques mois sur la déchéance de nationalité. Écoutez ce qu'elle disait donc ce week-end.
Avec toi, Benoît, nous partons à la reconquête des cœurs et des esprits. Nous sommes bien armés, nous avons des atouts, notre histoire, notre vision du monde, nos valeurs, notre projet, ce projet que tu portes avec tant de force et d'énergie. Nous allons redevenir une gauche de combat plutôt qu'une gauche de constat.
Voilà, redevenir une gauche de combat, ça veut dire que vous n'étiez pas une gauche de combat, vous étiez une gauche, on va dire, de gouvernement, une gauche de gestionnaire.
Je crois que la formule est jolie en termes de balancement de vocabulaire, mais elle n'est pas juste. Ce gouvernement a aussi été un gouvernement de combat. Je prends un exemple. Moi, je porte actuellement une proposition de loi sur le délit d'entrave à l'IVG contre les sites internet qui développent des mensonges et diffusent des mensonges sur l'IVG pour dissuader les femmes d'IVG. Je peux vous assurer que quand je fais ça, j'ai une conscience absolue d'être dans une posture de combat, étant donné les adversaires que j'ai en face de moi et la manière dont ils résistent. Mais tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, dans ce qui les oppose, Manuel Valls regarde vers Macron et Benoît Hamon regarde vers Mélenchon. Je ne crois pas que Manuel Valls regarde vers Macron. Je pense que Manuel Valls proposait une position centrale. Une position centrale de la gauche, c'est-à-dire une gauche en situation de gouverner, de rassembler, d'être au deuxième tour et de gagner au deuxième tour. Et Benoît Hamon, aujourd'hui...
Je parlais d'une vision de la gauche, vous m'avez bien
compris. Oui, mais c'est une vision... Oui, mais ce n'est pas...
On parlait d'une vision économique, plutôt.
Vision économique. Non. Benoît Hamon, la vision économique de Benoît Hamon est une vision de transformation.
N'est pas sociale-libérale comme elle peut l'être pour... Manuel Valls.
Oui, mais je ne sais pas si tous ces qualificatifs avec lesquels on a beaucoup joué pour s'invectiver les uns les autres sur les sociolibéraux, les sociodémocrates, sont aujourd'hui pertinents et efficaces. Ce qu'on observe, c'est qu'en Europe, comme dans le monde, les social-démocraties sont en crise de projet. Les gauches radicales sont en crise de gouvernance, c'est-à-dire qu'elles existent, elles se créent, mais elles ne gouvernent jamais. Je prends la situation espagnole.
Parce qu'elles ne veulent pas faire des sacrifices, demander des sacrifices.
Voilà. Nous, c'est sûr qu'avec Manuel Valls, on s'est mis dans l'idée que quand la gauche est candidate, c'est pour gouverner et pour faire avancer, réformer et transformer le pays et prendre nos responsabilités dans un contexte international et européen particulièrement difficile. Ces sujets-là seront les sujets de la campagne présidentielle parce que ce sont les sujets qui attendent la France dès le mois de mai, le mois de juin.
De quelle manière ?
Et donc Benoît Hamon les traitera, fera des propositions. Il a commencé sur l'Europe à dire une série de propositions. Et je crois qu'il va. On observe quand même les uns et les autres pour la première fois. C'est quoi les primaires ? Exercice quand même un peu étrange dans lequel
les résultats surtout pour vous
mais même si
dans l'exercice vous voulez dire
François Fillon qui a été choisi par la droite qui est venu voter, je suis pas sûr qu'il soit à l'épicentre pour autant du pays. C'est pas parce qu'on est très à droite dans son camp que pour autant on est en capacité de représenter le pays. Et une présidentielle, elle se fait par une alchimie qui vous oblige à aller chercher en dehors de votre propre camp. Et je m'aperçois.
Donc c'est le hiatus des primaires. Donc vous critiquez le système des primaires dans le fond.
Écoutez, je ne le critique pas, je l'analyse pour le moment.
Ouais.
C'est la première fois on les fait ensemble, enfin, où la droite et la gauche procèdent à des primaires. J'observe que dans les deux cas, les candidats qui ont été choisis n'étaient pas ceux qui occupaient les positions les plus centrales dans leur propre camp, mais c'est ceux qui occupaient les positions.
Ça pousse vers les radicalités, on va dire.
Les plus affirmés dans leur camp, les plus radicales, entre guillemets. Mais quand même pas un garçon extrêmement radical. C'est un garçon de conviction, mais mais voilà, j'observe ça. Après, la confrontation entre le candidat sorti des primaires et le pays est une deuxième étape dans la campagne. Pour l'un comme pour l'autre, sur l'abstraction des affaires Fillon, de ses affaires, dès sa désignation, il a fallu déjà qu'il commence à ajuster son programme, non pas à son camp, mais au pays. Donc en fait, la primaire n'est pas la finalité. La primaire ne donne pas le programme. Contrairement à ce qu'on pensait.
Ouais. Donc il faut le créer maintenant. Pourquoi Valls ne va pas donner un coup de main à Hamon au nom du grand rassemblement et de cette gauche de combat que tout le monde appelle de ses voeux?
Alors, je conviens d'expliquer.
Je crois que Manuel Valls, au soir du deuxième tour, s'est exprimé. Il a apporté son soutien à Benoît Hamon. Il a dit ce qu'il fallait dire pour mettre un terme aux idées des uns et des autres d'aller voir ailleurs comme si l'herbe était plus verte. Il a bien contenu les risques de départ vers le candidat Macron. Manuel Valls a pris ses responsabilités de candidat battu ce soir-là. Après, je ne suis pas sûre que Benoît Hamon ait envie de passer sa campagne présidentielle avec Manuel Valls à son bras à chaque instant. Mais Manuel Valls est positif à l'égard de la campagne de Benoît Hamon. Alors, et il l'aide, et ceux qui ont été autour de lui pendant la primaire vont aussi aider Benoît Hamon, parce que c'est un sujet collectif. Nous sommes attachés au Parti Socialiste, à la gauche et à une gauche de gouvernement capable de rassembler et de faire la synthèse.
Un dernier sondage, parce que il y a des livraisons quasiment quotidiennes. C'est notre pain quotidien, les petites phrases et les sondages, le pain quotidien des journalistes. Donc sondage OpinionWay, mais c'est une photographie du jour. Donc avec les intentions de vote donc au premier tour, avec une Marine Le Pen qui arriverait donc en tête avec 25%, ensuite Emmanuel Macron avec 23%, François Fillon 20%, 14% pour Benoît Hamon et 12% pour Mélenchon. Donc on voit quand même que bon, il est quatrième, il arrive quatrième, mais est-ce qu'il pourrait ringardiser dans cette guerre des gauches, on va dire, plus à gauche que moi tu meurs, Benoît Hamon remporte quand même la pomme et ringardise un peu les solutions mélenchoniennes. Quelle analyse vous faites, vous ?
Oui, c'est-à-dire que Mélenchon risque d'être pris à sa propre stratégie, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le dégagisme, en gros,
il le dit en
espagnol, c'est dehors les vieux, en gros, dehors les éléphants. Il peut être aussi, à un moment donné, victime de cette propre stratégie, Benoît Hamon apparaissant comme un candidat à la fois capable de porter un espoir à gauche, d'une gauche renouvelée, d'une gauche de projet, d'une gauche, moi j'en prends pas le mot utopie, mais d'une gauche de transformation, une gauche qui réinvente, je dirais plus exactement, une gauche qui réinvente. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon peut se retrouver un peu.
Et le deuxième tour, j'aimerais juste qu'on voit aussi le deuxième tour, parce que j'ai pas montré le deuxième tour. Donc avec un second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et là, c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait. Donc cette hémorragie dont on parlait avant l'élection de Hamon, finalement n'a pas eu lieu. Est-ce que ça veut dire qu'il est urgent d'attendre, que chacun reste à épier ce qui va se passer?
Ça tient en sondage d'amont. Hein, s'il chute dans les sondages, peut-être que l'hémorragie aura lieu. Vous mesurez le risque, j'imagine.
mais je ne vois pas les choses comme ça. D'abord, je me méfie des ralliements. Enfin, je me méfie des démarches individuelles qui viennent renforcer des démarches individuelles. Tout ça ne fait
ça,
jamais.
C'est Macron que vous qualifiez.
Tout ça ne fait jamais que la somme de démarches individuelles. Moi, je suis engagée en politique depuis que je suis toute jeune, et la force de la politique, c'est le collectif. C'est la capacité à penser des intérêts communs à ceux qui sont ensemble. Et avec Benoît Hamon, on fait partie du même collectif qui est le collectif de la gauche, du Parti Socialiste, d'une histoire. Moi, je regarde avec curiosité, intérêt, en même temps un peu de distance, ces deux aventures individuelles d'un part et d'autre, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle d'Emmanuel Macron, qui sont des gens autodésignés par la magie de leur charisme. Et je dis qu'en fin de compte, le processus de la primaire, avec toutes les observations qu'on peut faire dessus, tout ce que ça suscite comme réflexion de sociologie politique, est un beau processus, parce que notre candidat, il a été élu. Il ne s'est pas autodésigné.
Oui, mais vous entendez également, comme moi, ces ministres qui disent oui, Macron est bien un homme de gauche, c'est lui le mieux placé pour faire passer le second tour de la présidentielle. Il faudra le suivre, hein, c'est ce que dit Bernard Poignant, c'était l'un des conseillers les plus proches de François Hollande, Ségolène Royal, les yeux de Chimène pour Macron. Vous voyez bien, il y a
Bernard,
ça aussi, ça existe, même le
Bernard
collectif.
Poignant, si Bernard Poignant veut rejoindre Emmanuel Macron...
Et Ségolène Royal, et Hérault, et Ségolène
Royal est beaucoup plus nuancé que ça dans ses
derniers propos. Oui, elle attend de voir encore ce que fera Hamon.
Et il n'y a pas de raison...
Vous l'entendez ça aussi comme nous.
Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas faire le choix du soutien à notre candidat issu de la primaire. Il n'a pas failli depuis qu'il a été désigné. Et les sondages qui, tous les jours, vont essayer de nous expliquer qu'il faut qu'on se retire pour laisser le champ libre à Emmanuel Macron, ne vont pas être l'alpha et l'oméga de la stratégie politique. La campagne vient de commencer. Alors, je vous quand même...
Elle va être courte.
Mais la campagne... Pour Benoît Hamon, il a été investi hier. Pour Emmanuel Macron, on attend son programme. Et on verra au moment de son programme.
Vous êtes tentée, vous, par l'aventure Macron ?
Mais moi, je suis une fille de... Moi, j'aime pas déménager. voilà, j'ai horreur des déménagements. Donc, moi, je suis élue socialiste. J'ai des élus socialistes autour de moi, des sympathisants, des militants, des gens engagés qui sont attachés à cette histoire de la gauche. Moi, je regarde ce que fait
Emmanuel
Macron.
La gauche, elle peut muter.
La gauche peut muter, mais elle peut muter avec des forces politiques qui mutent ensemble.
Travail de longue haleine, la présidentielle, c'est dans 4 ans.
Une question, puisque c'est là la ministre.
La précipitation et l'affolement ne servent à rien dans ces moments-là. C'est le sang-froid qui compte.
Je m'adresse à la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Donc, vous avez vu qu'il avait des difficultés, Emmanuel Macron, à avoir des femmes, à investir des femmes pour les législatives. C'est pas évident du tout. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que les femmes sont attirées par la politique ou au contraire, justement, comme c'est un milieu brutal, c'est du sexy. Je vois que vous avez ce badge sur votre pull. Voilà. Est-ce que ça rebute les femmes, la politique ? Pourquoi ?
Mais en fait, j'ai observé ce que fait Emmanuel Macron avec bienveillance, c'est-à-dire que
il veut la parité.
Oui, d'abord, c'est mieux parce que la loi voilà. le préconise. Mais il a lancé un appel aux candidats et il n'a eu que 15% de candidates. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas surprenant vu la technique qu'il a utilisée. Il a lancé un appel à des individus. Venez. Et il s'étonne qu'il y ait que 15% de femmes. C'est pas étonnant.
Parce que
les femmes, parce qu'elles sont prisonnières de représentation, d'inhibition, d'un manque de confiance en elles, de toute une série de choses que vous connaissez, sur lesquelles je m'étends pas, pour qu'en politique elles prennent des responsabilités, il faut qu'il y ait un collectif qui les aide. Et je sais comment on a fait, nous, pour arriver à avoir 35% de femmes députées. C'est que circonscription par circonscription, on a décidé, là, il y aura une femme. Et on avait un collectif qui sont les socialistes, les élus, et on les a accompagnés, on les a choisis, on les a poussés. Discrimination positive à la française. Et comme Emmanuel Macron est uniquement sur faites des démarches individuelles, envoyez vos CV, les femmes, elles vont pas envoyer leur CV parce qu'elles se disent, mais après, je vais voir qui autour de moi pour m'aider, qui autour de moi pour m'étayer. Et c'est là où, quand on disait il y a un instant, la différence entre le collectif et l'aventure individuelle, ça compte. Il faut du collectif pour que les femmes prennent les responsabilités.
Il va peut-être apprendre en marchant, justement.
Voilà. Bon.
Véronique, peut-être sur une question.
Une dernière question, peut-être sur le jeune Théo. Le président Hollande s'est rendu à son chevet après encore une nuit un peu agitée. La nuit dernière,
un jeune homme qui a été agressé.
Ouais, qui a été agressé par des policiers. Vous aussi, l'exécutif réclame la fermeté. C'est cette même fermeté que Vous réclamez ce soir pour dénoncer les violences faites à ce jeune garçon des policiers.
Mais c'est fait. Ce qu'on a appris est absolument dramatique. Je ne sais pas ce que dira l'enquête, mais ce dont ce garçon révèle et ce dont il souffre, s'il y a réellement eu, comme il le dit, un viol, mais c'est l'humiliation sexuelle entre les mains de la police, c'est inacceptable. L'humiliation est inacceptable. L'abus de pouvoir est inacceptable. La police doit agir dans le respect des règles républicaines. Et là, elles ont été dépassées au-delà de toute limite. Et en tant que ministre des droits des femmes et de l'enfance, je suis révoltée qu'on puisse choisir l'humiliation sexuelle pour un jeune homme comme pour une femme.
Merci. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'avoir été notre invitée. Merci, Véronique. Et des remerciements.